France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. C'est une couleur qui peut nous aider à penser que la vie est belle, voire la vie en rose. Une expression un peu mièvre, mais qui raconte la douceur de cette couleur. Une couleur ambivalente qui oscille entre cuculapraline et signe de résistance face au fracas du monde, voire de rébellion punk face à la grisaille de nos vies. Réputée féminine, la couleur rose revient à la mode et les hommes n'hésitent plus à en porter sans peur de passer pour un gars sensible. Avec le grand historien Michel Pastoureau, nous explorerons l'histoire du rose qui n'est pas une demi-couleur et aussi la place du rose dans la mode et la déco et aussi dans l'histoire de l'art. Osez-vous porter du rose? Si vous êtes un homme, êtes-vous adepte de cette couleur comme la reine du roman à l'eau de rose, Barbara Cartland? Détestez-vous cette couleur et tout ce qui lui est associé? 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Ça y est, nous sommes sauvés, je viens de trouver. Voilà, le rose. Mélissa, porte-le-ci au modéliste, je veux que toutes les robes soient coupées dans ce rose-là. Laura, je veux que les chapeaux soient roses, que notre numéro soit rose, que le pays entier soit rose. Letty, viens prendre l'éditorial. À toutes les femmes d'Amérique. Non, à toutes les femmes du monde. Bannissez le blanc, brûlez le bleu et balayez le beige. À partir d'aujourd'hui, mesdemoiselles...
Pink, pink. Think pink when you shop for summer clothes. Think pink. Think pink if you want that kelp he shows. Red is dead. Blue is through. Green's obscene. Brown's taboo. And there is not the slightest excuse for plum abuse. Or chartreuse. Think pink.
Extrait du film Drôle de frimousse de Stanley Donen en 1957. Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
Historien de renom, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, médiéviste, spécialiste de la symbolique occidentale, du bestiaire et de l'histoire des couleurs. Je suis ravi une nouvelle fois de vous inviter dans Grand Bien Vous Fasse. Dernier ouvrage paru au Seuil, Blanc, histoire d'une couleur. Alors vous avez consacré de magnifiques livres au blanc, au jaune, au bleu, au rouge, au noir, au vert. Contrairement à ses couleurs, le rose est encore considéré comme une couleur mineure. En tout cas, la recherche en sciences humaines s'est peu penchée sur le rose. Et vous le martelez, le rose, eh bien c'est une couleur à part entière.
Oui, bien sûr. Dans les cultures occidentales, il y a 11 couleurs, 6 du premier rang, blanc, noir, rouge, vert, jaune, bleu, et puis 5 que j'appelle du second rang pour éviter toute connotation. Le violet, le gris, le brun, l'orangé et le rose.
Et vous n'aimez pas l'expression demi-couleur, pour parler du rose par exemple?
Non, parce que ça implique l'idée de mélange, c'est dévalorisant pour celle qu'on range sous cette appellation. Je préfère, pour éviter toute suggestion péjorative, dire couleur du premier groupe et couleur du second groupe. C'est vrai que blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu sont les couleurs de base de la culture occidentale, et les 5 suivantes viennent un petit peu après, leur histoire est plus courte, leur symbolique un peu plus faible. Mais après, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a que 11 couleurs dans la culture occidentale. Après, il y a des nuances et des nuances de nuances. Mais les nuances n'ont pas vraiment d'histoire, elles n'ont pas vraiment de symbolique. En tout cas, ça n'est pas du tout la même chose pour les uns et pour les autres. Je crois qu'il n'y a que 11 couleurs, ce qui est dommage, parce que 11, ça n'est pas vraiment une totalité, à part sur les terrains de football. Il faudrait une 12e couleur pour avoir une véritable équipe chromatique.
Alors, on sait que le bleu est la couleur préférée des Français. Où se situe le rose dans le classement des couleurs préférées?
Alors là, je vais être un peu difficile. C'est la couleur préférée des Français, mais des Européens. En général, le bleu, hein, les résultats sont les mêmes. C'est ça qui est fascinant d'ailleurs pour le sociologue ou l'historien. Les résultats sont les mêmes dans les différents pays d'Europe occidentale. Et les résultats sont exactement les mêmes pour les hommes et pour les femmes depuis qu'on a des enquêtes d'opinion, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle. Ça ne change pas, malgré les nouvelles lumières, les nouvelles matières, tout ce que l'on veut. Donc je peux dire l'avenir, hein, ce sera pareil dans 20 ans, dans 30 ans. Alors le rose n'est pas très bien classé, il faut le reconnaître. Le trio de queue dans ces enquêtes, quelle est votre couleur préférée? Le trio de queue, c'est à peu près gréco, rose, violet, brun. Le trio de tête, c'est bleu, vert, rouge.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que pendant longtemps, le rose se plaçait dans la gamme des jaunes plutôt que dans la gamme des rouges.
Oui, ça c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas avant de conduire mes enquêtes il y a déjà longtemps. Mais pour les sociétés anciennes, médiévales et encore de la Renaissance, on a beaucoup de traités des couleurs, à Venise notamment, on range toujours les tons roses dans la gamme des jaunes. Entre blanc et jaune, il y a rose. On a pas mal de poésie qui nous rappelle cela. Pour nous, c'est étonnant, mais acceptons l'idée que tout ce que nous croyons et classons aujourd'hui, ça fera sourire nos successeurs dans quelques siècles. Bien sûr.
Quel est le lien entre la couleur et la fleur? C'est un lien assez tardif. Hein. Il faut attendre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe. Hein. Parce que pendant longtemps, on ne s'est pas nommé cette couleur, ni en grec, ni en latin, ni dans les langues vernaculaires, le français, l'anglais, l'italien.
Voilà, il n'y a pas de mot pour dire cette couleur, alors qu'elle existe dans la nature, des minéraux, des végétaux. Pas la rose, qui n'est pas rose avant des dates assez avancées, mais il y a d'autres végétaux et fleurs roses. Et on a du mal à nommer cette couleur, aussi bien en latin que plus tard dans les langues vernaculaires. On fait des périphrases, on associe différents adjectifs. En latin, pallidus, c'est-à-dire pâle, c'est ce qui est le plus fréquent. Puis ensuite arrive le mot incarna, incarnatus, incarnato en italien, vénitien, qui donne un incarnat en français. Alors que les teinturiers font des progrès et arrivent à fabriquer des beaux tons de rose à partir de la fin du XIVe siècle, on ne sait pas nommer cette couleur. En latin, il y a bien un mot roseus, mais il ne veut pas dire rose du tout. Il veut dire beau rouge, vermeil, quelque chose comme ça. Et ça n'est vraiment qu'à partir du moment où les jardiniers arrivent à mettre au point des fleurs, des roses qui sont vraiment roses, que la fleur finit par donner son nom à la couleur. En français, c'est assez tardif, fin 17e, début 18e siècle. En anglais, le mot pink est encore plus récent et d'étymologie totalement obscure. A-t-il un lien avec pig? Les philologues ne le pensent pas.
Qui veut dire cochon.
Cochon, voilà. Et les cochons européens ne deviennent roses ou une robe blanc-rose que très tardivement.
C'est très tardif, en fait, le cochon rose.
18e siècle aussi, quand on commence à croiser des cochons européens avec des cochons asiatiques, ça donne cette robe blanc-rose que nous connaissons. Avant, les cochons sont bruns, ils sont noirs, ils sont tachetés, ils sont gris, ils sont beigeasses, voilà, mais pas roses.
Bonjour, il est Edouard Dujardin.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art et de la mode, diplômée de l'École du Louvre et du London College of Fashion. Vous publiez aux chaînes Rose de Botticelli à Cristo, une couleur à découvrir en 40 notices. Le rose, c'est une couleur où s'agrègent tous les stéréotypes. Hein.
Oui, complètement. Enfin, c'est une couleur qui est à la fois doucereuse, comme on le disait, ce côté un peu mièvre. Qui s'y est à beaucoup de peintures, notamment je pense au rococo, on a beaucoup associé cette tonalité pastel.
Au XVIIIe siècle.
Tout à fait. Et en même temps, il y a une grande sensualité dans le rose parce que on voit aussi la couleur de la chair et parfois même une chair très intime, à vrai dire. Donc il y a une forme d'érotisme. C'est genré. On a beaucoup de stéréotypes également autour de la féminité, de la masculinité, qui sont des stéréotypes assez récents, à vrai dire, parce que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, des hommes vont porter du rose également. Donc oui, il y a plein de contradictions, de clichés, d'ambivalence et d'opposition, finalement, quand on essaie d'analyser les œuvres d'art rose.
Et à propos de l'ambivalence de la couleur rose, je cite la linguiste au CNRS Annie Mollard-Desfours dans Libération en août dernier. Le rose a pu aussi bien être synonyme d'enfance, la layette, le vestiaire des enfants, garçons compris, du romantisme mièvre, les romans à l'eau de rose, que de la sensualité, couleur de la chair, de la nudité, voire de la sexualité, le minitel rose, possiblement sulfureuse, les ballets roses pédophiles qui ont secoué la France en 1959. Ambivalence du rose.
Oui, complètement, tout à fait. Et je pense que ça s'est accéléré et accentué au XXe siècle, à vrai dire. Aussi pour des raisons presque commerciales, on va dire, à partir du moment où on a commencé à marketer la couleur, surtout après-guerre. Je pense que les années 50 ont bien condensé ces ambivalences parce qu'on a d'un côté la pin-up que l'on part de rose. Je pense qu'on a tous en tête la robe de Marilyn Monroe dans ce nœud rose, comme ça, elle est empaquetée, offerte comme ça au regard des hommes. Et en même temps, d'un autre côté, on a aussi la femme au foyer parfaite, très domestiquée, très sage. Donc ces deux oppositions se sont mises en place à ce moment-là.
Michel Pastoreau, sur l'ambivalence du rose.
Oui, ce n'est pas un cas isolé. Toutes les couleurs sont ambivalentes. Chacune a ses bons et ses mauvais aspects. Donc, quand le rose émerge comme véritable couleur, bien sûr, il peut être péjoratif ou il peut être valorisant. C'est tout à fait dans la norme des choses. Quelle que soit l'époque et le contexte, il y a le rose positif et le rose négatif.
Bonjour Guimet Todicino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma Télérama, grande amatrice de la couleur rose. Vous en portez d'ailleurs ce matin.
Absolument.
Et du rosé.
Ça, je savais que vous alliez le dire. C'est vrai que quelle jolie couleur pour un vin. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites à un moment, pourquoi tout d'un coup, pour les enfants particulièrement, disons les layettes, quand se décide ce truc de les petits garçons c'est bleu, les petites filles c'est rose. À quel moment dans l'histoire ça se décide, cette chose?
C'est
quelque chose qui me fascine.
Et c'était indifférent, hein, notamment au 19e siècle, notamment dans la bonne société anglo-saxonne, les garçons et les filles portaient indifféremment du rose et du bleu. Et pour répondre à cette question, nous accueillons donc Jean-Gabriel Cosse. Bonjour, vous êtes designer et l'auteur du livre richement illustré chez Flammarion, L'étonnant pouvoir des couleurs. Vous pouvez répondre peut-être à Guimette.
En fait, il y a plusieurs raisons. L'une qui a bien marché, en particulier aux États-Unis, c'est dans les années 50, où un marchand de vélos s'est dit « Si je fais des vélos pour les filles et des vélos pour les garçons, j'en vendrai deux fois plus. » Donc dans les années 50, ils ont fait des vélos roses. Okay. Moi, je dis rose aussi, excusez-moi, comme la ville rose. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est devenu une couleur féminine. Et le marketing s'en est vraiment emparé à tous les niveaux, de partout. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va faire vraiment des produits roses, identifiés roses. Un packaging rose, forcément, devient un produit féminin, assumé. Donc, c'est une couleur repère qui est vraiment intéressante en marketing. Mais d'un point de vue historique, Michel le confirmera, c'est absolument pas une couleur féminine. C'est relativement récent.
Michel Pastoreau.
Oui, bien sûr. Pendant très longtemps, des hommes se sont habillés en rose, aussi bien que des femmes, au XVIIIe siècle notamment. C'est totalement mixte. Il faut souligner que les couleurs sont des codes vestimentaires pour le commun des mortels à partir du moment où elles deviennent grand teint, c'est-à-dire qu'elles tiennent sur l'étoffe et où on met au point la machine à laver. Donc, avant, les bébés, en général, sont vêtus de blanc ou de ton écru. Le grand chic pour les classes les plus favorisées, évidemment, c'est de porter un certain nombre de couleurs, mais rose pour les petites filles et bleu ciel pour les petits garçons, c'est vraiment quelque chose d'assez récent. C'est un code qui se met en place dans les années 30 et qui se diffuse dans les années 50 et qui s'essouffle quelque peu aujourd'hui.
Jean-Gabriel Cosse.
Et d'ailleurs, des scientifiques ont essayé de démontrer que le rose pour les filles, c'était une aberration. Ils ont fait jouer des enfants de 2 ans avec des jouets bleus et roses, garçons et filles. Ils se sont rendus compte qu'à l'âge de 2 ans, les petits garçons comme les petites filles jouaient de façon indifférente avec des jouets bleus ou des jouets roses. À l'âge de 5 ans, il n'y avait plus qu'un garçon sur 5 qui jouait avec des jouets roses et une fille sur 5 qui jouait avec des jouets bleus. Ce qui veut dire que c'est l'acquis, c'est le culturel, c'est le grand frère qui dit bah rose c'est pour les filles. Mais ça n'a aucun sens. Et si je peux rajouter une petite étude qui est encore plus drôle, c'est des universitaires qui ont eu la chance d'aller se promener en Amazonie péruvienne sur une île du Vanuatu pour voir si des plus grands, c'est-à-dire des enfants qui avaient 16, 17, 18 ans qui n'étaient pas trop influencé par la culture occidentale, aimer ou pas le rose. Et là, on se rend compte que oui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence. Ils aiment le rose et le bleu de la même façon.
Alors, Michel Pastoureau, on commence à voir des vêtements roses dans les représentations picturales à partir du XIVe siècle. Sur une miniature des frères Limbourg, on voit un personnage vêtu de rose. Au XIVe, XVe siècle, le duc Jean de Berry lance la mode du rose. C'est une mode venue d'Italie qui concerne l'étoffe et le vêtement, mais également la création picturale.
Oui, c'est lié à l'importation d'une matière colorante que l'on connaissait, mais que l'on utilisait mal, et que à partir de la fin du XIVe siècle, on utilise mieux, qu'on importe massivement le bois de Brésil, c'est-à-dire un arbre tropical qui vient du sud de l'Inde ou d'un sud-Inde. C'est une matière végétale qui sert à la fois en teinture et en peinture. Et les teinturiers font des progrès pour l'utiliser à la fin du XIVe siècle. Ça donne une couleur à la mode. Le duc de Berry, le frère de Charles V, qui est un grand amateur de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'art contemporain, non seulement en matière de peinture, mais aussi de vêtements. Et donc, il aime s'habiller de rose et d'oranger aussi, puisqu'avec le bois de Brésil, on fait aussi de l'oranger. Et ça met cette couleur à la mode pendant 2-3 générations, puis ça va s'essouffler et revenir au XVIe siècle en teinture. En peinture, on en tire une laque, la laque de Brésil, qui sert à faire de magnifiques tons de rose. On sait aussi faire des roses avec d'autres pigments, mais c'est vraiment assez nouveau et ça lance une mode qui, avec des hauts et des bas, ne s'essoufflera jamais.
Et petite parenthèse, le nom du pays Brésil tire son nom du bois de Brésil.
Voilà, on a trouvé au Nouveau Monde, dans le nord de l'Amérique du Sud, des arbres exotiques qui ont un pouvoir colorant, le bois a un pouvoir colorant, encore plus fort que celui d'Inde et d'Insulinde, au point que ce Brasileum a fini par donner son nom au pays. Le Brésil, c'est le pays où on apporte des bois à vertu colorante, notamment dans la gamme des rouges et des roses.
Alors, Hayley Edwards Dujardin, j'ai repéré dans votre joli livre un très beau tableau de Giovanni Battista Moroni, le gentilhomme en rose, qui met en scène un fier jeune homme. Il est vêtu à la dernière mode. Il est habillé en rose et cela n'enlève en rien à sa virilité.
Non, bien sûr.
Très beau tableau.
Oui. Je peux préciser, il est vraiment vêtu de rose intégralement.
Oui.
C'est ça qui est frappant dans le tableau. Il n'a pas juste un jabot, il est totalement en rose.
Oui,
totalement,
du coup,
on dirait aujourd'hui.
Ce rose, déjà parce que comme on associe, on rapproche le rose qui a une couleur martiale, puissante, affirmatrice. Les hommes qui se parent de rose ne délaissent aucunement ce sentiment de pouvoir et d'affirmation de soi et de virilité. Déjà dans la forme du vêtement, on voit très bien les marqueurs types de la virilité, une culotte très bouffante qui marque comme ça les hanches et l'entrejambe. Mais ce rose, il raconte aussi son histoire familiale parce que le corail était l'emblème de sa famille, donc il y a aussi une symbolique personnelle, on va dire un héritage. Mais il y a ce rose de masculinité, en fait, qu'on va vraiment voir se développer de plus en plus au XVIe et au XVIIe siècle. Comme une sorte, c'est pas un rouge ténu, mais c'est on va dire un cousin du rouge. Il est plus doux. Il vient raconter une masculinité plus douce, mais pas du tout dénué de force et d'affirmation.
Un roi porte du rose. Hein, c'est Henri IV, portrait d'Henri IV en mars, un portrait de Jacob Bunel de 1605-1606. Voilà, un tableau assez martial. Oui. Et ce roi est habillé en rose.
Oui, et avec notre regard contemporain, je pense qu'on pourrait presque trouver ce tableau un peu absurde, à vrai dire, parce qu'on n'aurait pas l'impression que la force d'un roi, d'un monarque, s'exprimerait par ce rose, qui est un rose un peu bubblegum presque.
Oui, enfin,
il est très clinquant, ce rose. Et en plus, il a un petit sourire en coin, donc tout nous paraît un petit peu ridicule presque. Mais finalement, tout ça est très codifié. Henri IV était un roi qui connaissait très bien le pouvoir de l'image et du portrait politique. Ce rose, là encore, raconte sa puissance martiale et sa puissance d'homme et de souverain. Et ce petit sourire raconte aussi quand même que c'est un homme bienveillant.
Guillemette.
Oui, mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'effectivement, quand vous dites c'est un peu bubblegum et tout, c'est vrai que ce tableau, il est un peu... un peu insolent, mais il y a ce côté kitsch aussi.
Oui.
À quel moment le rose est associé au kitsch? Enfin, parce que quand même, c'est vrai que ça vient souvent comme premier adjectif pour le rose, c'est un peu kitsch quand même.
Michel Pastoreau.
La notion de kitsch est une notion tout à fait moderne, donc ça ne peut pas être très très ancien. Dans les sociétés anciennes, dans l'image, naturellement, n'importe quoi peut être de n'importe quelle couleur, et l'image ne photographie pas la réalité. Donc quand on est historien, il faut être extrêmement attentif et ne pas croire que on était habillé à telle ou telle époque comme ce que l'on voit dans les tableaux, les vitraux, les tapisseries. C'est pareil d'ailleurs de nos jours. Hein. Prenez un magazine de mode, asseyez-vous dans le métro, vous verrez que absolument personne n'est habillé comme dans les magazines de mode. Donc j'espère que les historiens des époques à venir ne seront pas naïfs au point de croire qu'en 2023 on était habillé comme ce qu'on voit dans les magazines de mode, alors que ça ne concerne personne, absolument personne. Et pour moi, historien du Moyen-Âge, c'est pareil. Il ne faut pas que je crois que ce que je vois dans les vitraux ou les miniatures, ça correspond à une réalité colorée. Non, c'est l'imaginaire de la couleur, l'idéologie de la couleur. C'est très intéressant, mais c'est pas la réalité du vêtement vraiment porté.
Et nous accueillons Cyril. Bienvenue, Cyril.
Oui, bonjour.
Alors, vous aimez bien porter du rose ?
Oui, tout à fait, depuis plusieurs années déjà. Je précise, je suis un homme de 50 ans, bientôt, dans un mois.
Bienvenue au club.
Voilà, c'est ce que je viens d'apprendre au standard, Ali. Et depuis une trentaine d'années, j'ai bien compris que, histoire de se démarquer, porter des chemises colorées, bariolées, fleuries, on va dire, et avec du rose, m'a permis... de satisfaire cette envie ou ce besoin, quelque part, de ne pas passer inaperçu. Mmh. Voilà.
Qu'est-ce que vous aimez dans cette couleur et quel est le regard des autres quand vous la portez?
Justement, ce que j'apprécie, c'est que le regard à la fois des hommes un peu estomaqués ou des femmes qui sont plutôt admiratives, ça change énormément de choses, en fait. Voilà, j'ai trouvé ça très... très marrant, et j'en joue un peu. Je précise, je suis chef d'entreprise, j'ai une clientèle relativement majoritairement féminine. Je suis dans un secteur qui est plutôt lié à la culture. Donc, je peux recevoir des gens qui sont habillés de manière parfois un peu extravagante, ce qui n'est pas mon cas. Hein. Je reste avec une certaine tenue, une certaine retenue, une certaine élégance, enfin du moins j'espère. Voilà. Et je vois bien que les regards sont très différenciés selon les hommes et les femmes. Les uns sont dépités, étonnés.
Et voilà. Jean-Gabriel Cosse, vous comprenez Cyril, parce que le rose, c'est votre couleur préférée, et vous n'hésitez pas à en porter.
Ah, j'en porte à peu près dans toutes mes prises de parole en public, sauf aujourd'hui, par esprit de contradiction, je suis pas venu en rose, mais sinon c'est vraiment ma couleur. Et c'est une couleur qui, en fait, quand on vous voit en rose... Autant les filles en rose, c'est pas avéré, mais par contre, voir la vie en rose, c'est avéré. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand vous voyez du rose, vous voyez du positif. Mmh. C'est-à-dire que là, il y a des études qui démontrent qu'en présence de rose, c'est-à-dire que vous voyez un mur rose ou quelqu'un habillé en rose, votre rythme cardiaque, votre pression artérielle baisse, moins de battements de paupières, etc. C'est une couleur relaxante. Mmh. Voir quelqu'un en rose, c'est voir quelqu'un de relax. Mmh. Donc quelqu'un de positif, donc quelqu'un à qui on a envie de sourire. Et c'est le cas. C'est vraiment une couleur absolument formidable. Porter du rose, c'est vraiment un atout extraordinaire.
Merci beaucoup Cyril de nous avoir appelé. Alors dans quelques instants, on s'intéressera à la féminisation du rose. Ce sera juste après avoir écouté Bill Withers, Use Me, un titre de 1972, l'année de naissance de notre réalisatrice Claire Destacan. 10h28 sur France Inter. My friends feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me.
and you act real rude to me.
Bill Withers interprétait Use Me.
C'est, sérieusement.
Je l'ai vu, hein.
Quoi? Pourquoi le pantalon rose?
Rose?
Oui.
Grand bien vous fasse.
Parce que dans rose, il y a ose.
Ali Rebéi.
T'es pas devenu con.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse ce matin à la couleur rose dans notre vie quotidienne. Michel Pastoureau, je rappelle que vous êtes historien. Le rose est donc une couleur à la mode à partir du XIVe siècle. Le rose qu'on appelait incarna, la couleur de la chair. En italien, vous l'avez dit, on parlait d'incarnato. Au départ, le terme désignait la carnation du visage. Ensuite, il désignera tous les tons de rose. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est un mot toscan qui devient vénitien. Puis, c'est un domaine où le latin est plus récent que la langue vernaculaire, ce qui n'est pas tellement fréquent. Incarnatus, ça désigne les tons de la peau, spécialement quand elle est un peu échauffée. Et donc, quand le rose devient à la mode sur le textile et le vêtement, on cherche un mot nouveau. Et à Venise, incarnato devient d'usage courant dans le courant du XVe siècle et s'impose dans d'autres pays d'Europe. Et dans d'autres langues. D'une manière générale, d'ailleurs, jusqu'à des dates avancées, dans les langues vernaculaires européennes, on a du mal à dire les nuances. Mmh. Il faut attendre vraiment le 18e siècle pour que le vocabulaire devienne riche. Avant, au fond, le latin est plus riche que la langue vulgaire. Mais donc, le rose, c'est incarnato, incarnatus, incarna en français. Mmh.
Eileen Edwards Dujardin, dans votre livre Rose de Botticelli a Cristo, on retrouve le Saint-Barthélemy de Bronzino peint en 1556, et là on voit la crudité de la carnation. Hein. Dans ce tableau, décrivez-le.
Oui, on a un homme presque dépouillé en fait de sa peau. On a un aperçu de son anatomie, de ce qui est d'habitude invisible à l'œil nu. On voit les tendons, les muscles. Et là, c'est vraiment toute la définition du rose que je disais tout à l'heure. C'est ce rose intime en fait qui est dans les profondeurs de nos chairs, de nos entrailles. C'est un tableau extrêmement difficile à regarder. Et là, on sort complètement du rose mièvre finalement. C'est pour ça, encore une fois, on vient rajouter une nouvelle grille de lecture en quelque sorte à ce rose qui est violent, mais qui est aussi humain. Finalement, on est fait aussi de ce rose-là.
Michel Pastoureau.
Oui, c'est le propre de la peinture du XVIe siècle que, dans leur rendu des chairs, on fait un effort polychrome. Ce que ne faisait pas l'image médiévale, ni la miniature, ni le vitrail, où la couleur était plutôt monochrome pour rendre les chairs. Là, on a dans le rose du verdâtre, du blanchâtre, du grisâtre, du brunâtre, et parfois jusqu'à l'excès. Hein, quand on arrive dans la seconde moitié du XVIe siècle, c'est toute une palette qui habille la peau humaine, spécialement quand elle est prise en mauvaise part dans les scènes de crime, de transgression, à un titre ou à un autre. Cain tuant Abel, par exemple, on a deux corps nus avec des chairs abominables.
Michel Pastoureau, j'aimerais qu'on revienne au grand siècle du rose, le 18e siècle. Dans la haute société, le vêtement rose est à la mode hein, chez les hommes et chez les femmes. Sous le règne de Louis XV, c'est Madame de Pompadour hein, qui met le rose à la mode, hein, souvent associé au bleu ciel. Hein.
Voilà, oui, le 18e siècle est un grand siècle du rose. Les jardiniers donc ont mis au point des roses vraiment roses. Ça renouvelle la mode des tons roses. Que on aime associer en effet au bleu, et spécialement au bleu ciel, alors qu'auparavant, notamment à Venise, on associait plutôt le rose avec des tons qu'on dirait vert amande. Nous, ça semble très très beau pour l'œil vénitien en tout cas. Au XVIIIe siècle, donc, c'est avec des bleus clairs. Et ça dure au moins deux générations. Ça s'essouffle un peu à la fin du siècle, bien sûr. Mais c'est partout, non seulement dans le vêtement, mais aussi dans l'ameublement et même parfois sur la peau humaine, puisque la mode est de se maquiller, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, en se couvrant les pommettes de rouge et autour des pommettes de mettre un peu de rose avec des produits parfois très dangereux, comme le cinabre et la céruse dans la gamme femmes des Blancs.
Ce sont des poisons. Hein.
On sait très bien que c'est dangereux, mais le désir d'être beau est plus fort que la peur de la mort.
Hayley Edwards Dujardin, à cette époque, donc au XVIIIe siècle, on peut citer un beau portrait, hein, le portrait du comte d'Angivilliers, peint en 1778 par Duplessis et exposé au château de Versailles. Hein.
Oui, c'est un très beau portrait. On voit cet habit à la française rose. En plus, bon, on peut pas voir l'œuvre, mais on voit ce satiné comme ça, qui est très beau, très bien représenté avec cette lumière qui est captée par l'artiste. Et oui, il a encore un homme en rose, totalement banal, presque j'ai envie de dire, au XVIIIe siècle. C'est intéressant parce que c'était un homme qui avait quand même une forme d'autorité, qui était un rôle important dans la société d'alors. Et donc, c'est presque comme une manière de vouloir se positionner en tant qu'homme de pouvoir, mais de peut-être pas vouloir froisser l'autorité suprême, c'est-à-dire le souverain, et de doser ce rose qui vient un cran en dessous du rouge royal.
Guillemette Odissino de Télérama.
Vous dites ce satin. C'est vrai qu'en fait, je ne sais pas si c'est comme ça aussi un stéréotype, mais moi, par exemple, en termes de textile, si vous me parlez de rose, je pense à de la soie, du satin, ce genre de tissu comme ça, un peu riche, mais aussi comme ça caressant. Enfin, est-ce qu'à un moment dans l'histoire de la mode, ça correspond cette notion du textile avec la couleur ou pas?
Jean-Gabriel Cosse, je rappelle que vous êtes membre du Comité français de la couleur.
Ben, en fait, le rose, c'est la couleur de la douceur. Parce que là, faut distinguer l'inné et l'acquis. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont culturelles, dont on a parlé, mais il y a des choses qui sont innées, donc que tout le monde partage. Et le rose, c'est vrai que c'est une couleur douce. On l'associe à la douceur. C'est pour ça que quand vous voyez le papier toilette, par exemple, c'est cette douceur qui fait que c'est la bonne couleur pour nos océans. On a envie de cette couleur
douce. Ce n'est pas que pour cette raison, Jean-Gabriel.
Oui,
je crois que le papier toilette est rose parce que quand le papier toilette s'est industrialisé dans les années 60, teindre en rose coûtait nettement moins cher que de teindre dans d'autres couleurs.
C'est vrai. Il y avait du brun aussi, mais c'était plus joli en rose à l'époque.
C'est plus prosaïque.
Mais cette douceur, par exemple, on la voit dans les crèmes de beauté, par exemple. La même crème de beauté blanche ou rose, vous la trouverez plus douce si elle est rose. Du liquide vaisselle, par exemple. Le liquide vaisselle rose, vous avez le sentiment qu'il va ne pas abîmer vos mains. Le liquide vaisselle rose est plus doux que le liquide vaisselle jaune. Donc, cette couleur, vraiment, amène de la douceur. D'ailleurs, c'est l'anagramme de Eros, une forme de douceur rose. Donc, vraiment, c'est une couleur douce. C'est normal que vous la voyez comme ça.
Michel Passoureau vous écoute avec beaucoup d'attention.
Oui, bien sûr. Un beau rose, ça doit être brillant. Quand il est mat, il perd un peu de sa beauté. Il perd même un peu de sa douceur. Il devient quelque peu rugueux pour notre œil d'aujourd'hui. Hein, tout ça est culturel et on ne peut pas projeter dans le passé, même vers le XVIIIe siècle, nos sensibilités, nos systèmes de valeurs. Sinon, on dit des bêtises.
Maintenant, confectionnez une robe merveilleuse qui transformera Rose en princesse radieuse.
Oh non, non, pas en rose. Mais en bleu.
Ma chère Paprame, moi je préfère le rose.
Moi je dis en bleu.
En rose.
Extrait de la Belle au bois dormant de Disney en 1959. Alors le rose est devenu l'apanage de la féminité aujourd'hui. Comment le rose s'est-il féminisé, Michel Pastoureau? Est-ce que la poupée Barbie a joué un rôle dans cette féminisation dans les années 60-70?
Oui, elle a joué certainement un rôle, pas toujours d'ailleurs laudatif, parce que le rose Barbie a une tendance à glisser vers le violacé, et pas mal d'enquêtes d'opinion montrent qu'en termes de nuances, une des nuances les plus rejetées, c'est tout ce qui se trouve entre rose et violet. Donc ça n'est peut-être pas une très très bonne idée que de s'investir dans ces tons-là, si je puis dire. Bon, enfin, tout ça est culturel et très très relatif. Ce rose féminin, il est assez récent parce qu'à mon avis, c'est une déclinaison du rouge féminin qui s'oppose au bleu masculin. Et ça n'a pas toujours existé dans les sociétés anciennes. C'est le contraire. Le rouge est viril et guerrier, c'est la couleur du dieu Mars, on l'a dit. Et le bleu, c'est la couleur de la Vierge, donc de la féminité. Et le code s'inverse, non pas d'un coup, mais lentement. Le bleu qui était féminin devient masculin et le rouge qui était masculin devient féminin. quelque part entre le 16e et le 18e siècle. Et je pense que rose et bleu ciel pour les petites filles et les petits garçons, c'est une déclinaison pastel, en quelque sorte, du rouge féminin et du bleu masculin.
Alors, à partir du 19e siècle, pour un homme, porter du rose, c'est peut-être se déviriliser. Pourtant, aujourd'hui, sur de nombreux terrains de sport, les hommes osent porter des maillots roses. Certaines équipes de rugby bien connues portent des maillots roses.
Oui, le Stade français, c'était un coup publicitaire à la fin du siècle dernier. Mais, bien sûr, les champs des terrains de sport sont des champs d'observation extraordinaires pour l'histoire des couleurs. La palette n'est pas très diversifiée quand le sport moderne apparaît. Hein. C'est blanc contre noir, dans les collèges écossais, dans les collèges anglais. Puis le bleu et le rouge rejoignent le blanc et le noir. Puis le vert et le jaune. À la veille de la Première Guerre mondiale, il y a 6 ou 7 couleurs, peut-être violet. Et puis, dans les années 30, ça se diversifie pas mal. Et dans les années 60-70, on voit apparaître, en effet, des roses, des gris même. C'est un moyen pour les club nouveau de s'emblématiser par ce qui était disponible au fond. Il faut puiser dans les couleurs dans lesquelles on ne puisait pas auparavant. Et le rose est de ces couleurs-là.
Tiens, Nathalie nous envoie un message très intéressant. Elle nous dit « Je suis totalement allergique au rose. Il représente pour moi l'enfermement des femmes dans des stéréotypes. Les petites filles ont été noyées, entre guillemets, dans du rose. Vêtements, jouets, surtout pour faire semblant de faire des tâches parentales et domestiques. C'est aujourd'hui presque impossible de trouver des chaussures de course pour femmes avec aucun rose nulle part. Le rose me fait presque horreur pour des raisons, je dirais, politiques. Que dire de la taxe rose, c'est-à-dire des produits genrés femmes, très souvent roses, qui sont plus chers que, pour les versions hommes, guillemets Odissino.
Oui, c'est vrai que la taxe rose, c'était il y a quelques années, il y avait eu vraiment des grands mouvements contre cette notion-là, que par définition, les produits pour femmes était plus cher, ça se marketait mieux, ça se vendait plus cher et tout. Mais la notion du rose, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai eu une fille et un garçon. Enfin, voilà, j'ai eu un garçon et une fille. Et ma fille, je refusais de l'habiller. Alors, particulièrement avec ce genre de rose Barbie, hein, il faut être honnête, cette espèce de rose assez moche, c'est vrai en plus. Et à une époque, maintenant ça s'est un peu calmé, mais à une époque, c'est vrai que toutes les fringues pour petites filles, les baskets et tout, étaient d'un rose moche, mais c'était incroyable comme c'était laid. Et j'ai tellement insisté là-dessus que maintenant ma fille est devenue allergique. Ben, elle est grande maintenant, mais elle est devenue allergique au rose. Même quand elle voit un t-shirt et qu'il y a un tout petit peu de rose dedans, elle dit ah non. Enfin, je l'ai complètement formatée à anti-rose, ce qui est ridicule parce que moi j'en porte, mais bon.
Jean-Gabriel Cosse, aujourd'hui les hommes porte du rose sans peur et sans reproche, notamment dans les jeunes générations. Et puis il faut noter que depuis longtemps, dans la bonne bourgeoisie ou dans l'aristocratie, on porte des pantalons roses ou des polos roses sans aucun problème.
Hein. Ah oui, dans la mode maintenant, aujourd'hui, elle a jamais été aussi rapide la mode. C'est-à-dire qu'il y a des influenceurs qui lancent une mode, 15 jours après elle a disparu. C'est-à-dire que là aujourd'hui, il n'y a plus vraiment des courants, des couleurs de fond comme il y a pu y avoir pendant quelques temps. Aujourd'hui, bon, on parle du fuchsia et du mauve qui sont les jolis. Enfin, les roses à la mode, entre guillemets, en ce moment. Il y a Pantone, par exemple, qui a sorti le magenta comme couleur de l'année 2023. Donc, on est dans le rose. Mais ce qui est dingue avec le magenta, et je vois que
Michel sourit,
c'est qu'en plus, le magenta de Pantone, si vous le regardez, il n'est pas magenta. Parce que magenta, c'est vraiment un rose primaire en impression. Et quand on voit le magenta de Pantone, on n'est pas
Pantone,
sur le magenta.
Pantone, expliquez.
Pantone, c'est le nuancier de couleurs. C'est un nuancier mathématique utilisé par à peu près tous les graphistes pour définir les couleurs.
Michel Pastoureau.
Oui, non, je lève les yeux au ciel parce que, à titre personnel, c'est une nuance de couleur que je déteste, le magenta. Donc,
bienvenue au club.
Voilà. Et vous savez d'où vient le nom, magenta?
Ben, de la bataille de Magenta, exactement, oui, bien sûr, qui a fait énormément de morts. Donc, à l'origine, c'est un rouge un peu sang, qui évolue vers du violacé. Il y a cette tendance à violacer tous les tons à partir de l'impressionnisme, qui a été dénoncé, d'ailleurs, par un certain nombre de peintres, Valoton, par exemple, mais qui exerce encore ses ravages aujourd'hui.
Guillemette Odissino.
Non, mais je reprends ce que disait Nathalie, je crois, mais c'est quand même intéressant qu'à un moment, je sais pas, c'est à partir de quoi, des années effectivement 50-60, on a quand même enfermé les petites filles dans le rose. Ça c'est vrai quand même. Hein. On les a vraiment, mais le verbe était parfait, noyées dans le rose. C'était très compliqué d'habiller sa gamine autrement, quoi. Enfin, c'est quand même un truc fou, ça. À quel moment c'est devenu comme ça une espèce de couleur prison pour la féminité.
Mais justement, dans les années 50, les mouvements de mode étaient très très forts, c'est-à-dire que tout le monde allait porter du rose. Et ce que vous disiez par rapport à votre fille est très intéressant, c'est que à cette époque, on cherchait vraiment la surconsommation, c'est-à-dire que on sait qu'il y a une période où une petite fille assume, se dit je suis bien en rose parce que, et puis à un moment elle devient rebelle et dit je veux plus de rose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renouveler toute sa garde-robe. En plus du fait qu'elle grandit, etc., ça double les ventes de vêtements. Donc c'était un coup marketing qu'aujourd'hui on peut trouver un peu limite, mais en tout cas c'est.
Et il est Edwards Dujardin. Je rappelle que vous êtes historienne de l'art et historienne de la mode.
Oui, bah c'est ça, c'est dans les années 50 vraiment qu'on voit cette scission et ce rose enfermant, comme vous disiez. Et je pense les années 80, moi je suis née dans les années 80 et je me souviens aussi de cette décennie très très rose, très Barbie, très poupée. Enfin, on a baigné dans le rose. Alors moi j'ai eu de la chance d'avoir une éducation des parents qui m'ont pas enfermée dans ce rose. Mais c'est vrai que c'était très 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 présent. Et aussi sur les podiums d'ailleurs, ce rose clinquant, très tape à l'œil.
Michel Pastoureau.
Oui, moi, historien des couleurs, je suis aussi historien du vêtement. Et ce qui me frappe quand même, pour les époques anciennes comme pour l'époque contemporaine, c'est l'écart entre le discours et puis le vêtement vraiment porté par le commun des mortels au quotidien. Et est-ce que cette invasion de rose, ça concernait vraiment toutes les classes de la société, tout le monde? Je connais mal le vêtement pour enfants, mais dans le vêtement pour adultes, quand je regarde des photos en couleur des années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, etc., on est toujours habillé dans les mêmes couleurs. Il n'y a aucune différence. Quand vous prenez un wagon de métro, un quai de gare, un autobus, dans les rues, la palette est exactement la même.
Alors, chez les femmes, il y a eu un mouvement très fort sur le rose avec le Vichy, juste après le mariage de Brigitte Bardot, qui avait une robe Vichy. Et cette robe Vichy, vraiment, a été reprise par toutes les femmes. Et donc, il y a eu un énorme courant de mode autour de cette couleur juste après.
Non, mais juste pour le vestiaire enfantin, pour les petites filles, le problème, c'est que souvent, le vestiaire enfantin, il est inspiré. Enfin, ce sont des marques, c'est-à-dire c'est Disney, c'est Barbie, c'est tous les petits les dessins animés à la mode, avec des licornes, des machins, des trucs. Et alors, du coup, là, ça devient rose, mais absolument... immensément rose, vous voyez. Donc, en fait, c'est pour ça, Michel Pastoureau, qu'il y a du rose partout pour les petites filles, c'est parce que les dessins animés pour petites filles... C'est des princesses roses.
Alors le rose est présent dans...
C'est là où vient le stéréotype en fait.
Le rose est présent dans plusieurs expressions qui disent le bonheur de vivre, un certain bien-être, voir la vie en rose, être sur son petit nuage rose, voir des éléphants roses, ça c'est autre chose. Bonjour professeur Michel Lejoyeux, bienvenue.
Bonjour monsieur Rémy, merci pour votre invitation, très heureux d'être avec vous. Vous entendre me donne déjà la vie en rose.
Alors vous êtes médecin psychiatre, professeur Lejoyeux, l'auteur d'En bonne santé avec Montaigne. Alors pourquoi le rose est-il à ce point associé au bonheur? Alors on sait que regarder une mer ou un lac bleu, un paysage végétal vert, c'est bon pour notre humeur, hein, ça a été prouvé par de nombreuses études scientifiques. Mais que sait-on de l'impact du rose sur notre mental, sur notre esprit?
Alors très honnêtement, vous m'avez fait beaucoup travailler, hein, vous avez joué le professeur, hein, donc du coup j'ai cherché des publications spécifiques sur le rose, il n'y en a pas, il n'y a pas de données.
Merci d'être
montrant
venu.
Un effet. Voilà, bonne journée et à bientôt. Mais n'empêche que ce qu'il y a, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit une corrélation entre les couleurs en général et des effets de stimulation neuronale. C'est-à-dire que maintenant, c'est un champ complètement nouveau, soyons sérieux, je ne fais pas aujourd'hui d'ordonnance de couleur. Les patients que je reçois en consultation ne ressortent pas avec une ordonnance, manger du rose, regarder du rose, etc. Mais c'est probablement un champ très innovant de la psychologie que de raccrocher la couleur de ce qu'on regarde, mais évidemment aussi la tonalité émotionnelle de ce qu'on regarde, aux émotions. Donc c'est vraiment, même si aujourd'hui j'aurais voulu avoir plus de données sur le rose, il y en a effectivement sur le fait de voir la nature, et on peut imaginer que dans la nature, il y a aussi du rose.
Professeur Lejoyeux, psychologiquement, regarder du rose, c'est rechercher un certain conditionnement à la bonne humeur. C'est une boucle qui fait du bien, en fait.
Oui, vous savez, vous avez gentiment cité mon livre sur Montaigne. Montaigne disait, il ne faut pas aimer sa tristesse. Il ne faut pas aimer les idées grises, les choses grises, les pensées grises. À l'inverse, rechercher la couleur rose, les objets roses, les idées roses même, pourquoi ne pas l'imaginer comme ça, c'est une manière, au fond, d'avoir une démarche volontariste vers des émotions positives. Donc, quand on recherche des émotions positives, on a plus de chances de les vivre que si on ne recherche que du gris, des moments de, même de blues ou de tristesse.
Alors, Hayley Edwards Dujardin, dans votre livre, il y a un tableau qui me rend heureux, hein, vraiment. C'est le soleil couchant sur la Seine à Lavacourt, effet d'hiver de Claude Monet, peint en 1880, et visible au Petit Palais. Voilà, honnêtement, je le regarde et j'ai une onde de bien-être qui se déclenche.
Je pense que ça va au-delà même du rose là, cette fois-ci, c'est parce qu'en général les soleils couchants, enfin moi je sais que ça me fait le même effet. Ouais. On ce pouvoir de nous apaiser, de nous émouvoir,
c'est les
on
se sent. Roses.
Mais c'est ça, c'est on se sent très petit en fait face à l'immensité de ce ciel en général qui se pare de rose. Et évidemment, Monet a parfaitement su capter ces tonalités-là.
Jean-Gabriel Causse.
Oui, pour revenir aux études sur le rose, il y en a quand même une absolument formidable, qui est celle, le fameux rose de Baker et Miller. Je ne sais pas si monsieur vous connaissez. En fait, c'est deux commandants du centre correctionnel de la marine à Seattle qui ont accepté de repeindre leur prison en rose. Et pour voir comment les détenus se comportaient dans cette prison. Et le fait que cette prison soit rose, les détenus sont beaucoup plus calmes. Et là, il y a eu pas mal d'études sur le sujet, sur ces des fameux détenus. Ça a été repris à Berne aussi, il y a des prisons en Suisse où des cellules sont roses. Moi, personnellement, dans des centres, des hôpitaux psychiatriques, les cellules de crise, je les peins en rose. Et c'est vrai que dans ce rose, alors ça marcherait peut-être avec d'autres couleurs, on ne sait pas, mais en tout cas, avec ce rose, on est vraiment calme et ça a vraiment un effet tranquillisant qui est incroyable.
Un autre tableau merveilleux dans votre livre, Hayley Edwards Dujardin, c'est le tableau de Raoul Dufy, hein, peint en 1931, 30 ans ou la vie en rose.
Oui, c'est un cadeau d'anniversaire ce tableau et il représente toute l'allégresse.
Qu'est-ce qu'on y voit ?
On y voit cet intérieur avec un papier peint parsemé de fleurs et qui vient se confondre en fait. Il y a une sorte de brouhaha comme ça, visuel, avec un bouquet de fleurs au centre, tout en rose, hein, tout en nuances de rose. Et là, on la voit, cette vivacité. Parce que aussi, on parle beaucoup de douceur et tout, mais là, on est dans la vivacité, dans l'exubérance du rose aussi, dans toute la joie de fêter son anniversaire, j'imagine.
Merci beaucoup, hein, professeur Michel Lejoyeux, d'être intervenu dans cette émission. Dans un instant, nous verrons comment bien utiliser le rose dans son intérieur et comment bien le porter sur soi. Ce sera juste après avoir écouté Claire, la joie.
Droit. Non, j'aurais pas droit.
Oui, ouais, ouais.
éclater la joie.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi sur France Inter.
Et on s'intéresse ce matin à la couleur rose dans notre vie quotidienne. Beaucoup de messages. Emmanuel qui nous écrit « Le rose est ma couleur préférée. Je trouve bien dommage que cette couleur soit sous-estimée, considérée comme une couleur de fille, entre guillemets. Alors à ma petite échelle, j'ai décidé de lutter contre cette discrimination en habillant mon fils de vêtements roses de temps en temps pour lui montrer qu'une couleur n'est pas genrée. Messieurs, osez le rose. Vous verrez, ça fait du bien. Delphine, moi, je l'aime tant le rose. Le vieux rose est celui des voiles et des vareuses, des pantalons de marin breton. Tiens, ma fille s'appelle Rose. Vive le, les, la rose et le rosé, bien sûr. Ceci pour guillemets, Todissino. Voilà. Et puis Marion qui nous écrit « Moi, j'aime pas le rose. Je n'en porte jamais, sauf au travail. Je suis sage-femme et c'est la couleur qu'on nous associe. » Jean-Gabriel Cosse, je rappelle que vous êtes designer. Pourquoi a-t-on du mal à décorer les pièces de sa maison avec du rose? Avec la peur peut-être de l'effet bonbonnière?
Oui, alors déjà, il faut voir quelle rose. C'est-à-dire que si vous êtes sur des roses poudrées ou des vieux roses,
oui.
Ça passe déjà mieux, effectivement, que des magenta ou des roses Barbie qui sont un peu agressives.
Des roses bubblegum.
Exactement. Donc, mais pourtant, c'est une couleur absolument formidable.
Dans toutes les pièces de la maison?
En fait, ce qui est important dans la décoration, c'est d'essayer de retrouver un peu ce que l'on en a dans la nature. C'est-à-dire que dans la nature, on voit toutes les couleurs. Et nos ancêtres voyaient toutes les couleurs toute la journée. Donc si vous avez un appartement blanc avec simplement une pièce rose, ça peut être déséquilibré. Mais si vous avez du rose d'un côté, du jaune, du vert, du bleu, etc., ça crée une harmonie, ça crée un équilibre que l'on peut trouver dans des papiers peints, par exemple, aussi. Donc l'idée, c'est de multiplier les couleurs, mais il n'y a aucune pièce dans laquelle on ne pourrait pas mettre de rose.
Mais vous conseillez des roses poudrées
Oui. Ah oui, il y a des roses assez complexes, en fait. On n'est pas sur du rose primaire, le fameux magenta. Donc oui, allez sur des roses. Et puis selon la surface que vous avez à peindre, jouez sur la saturation. C'est-à-dire que si vous peignez juste une porte, par exemple, vous pouvez être sur un rose assez vif, assez saturé. Par contre, si vous faites tout un mur, soyez sur du plus désaturé. En fait, on dose l'intensité de la couleur par aussi sa surface.
Et comment bien le porter sur soi?
En osant, tout simplement. Ouais. Il suffit de se dire, est-ce que je me sens bien dans ce vêtement? Plutôt que de se dire, de quoi j'ai l'air là-dedans? Parce que si vous vous dites, mais ça, c'est valable pour tous les vêtements, si vous dites de quoi j'ai l'air là-dedans, il y a beaucoup de chances que vous n'acceptiez pas cette couleur. Par contre, si vous vous dites, est-ce que je me plais dans ce vêtement? Allez-y, il est fait pour vous.
Tiens, pour terminer, Jean-Gabriel Cosse, est-ce que le rose est vendeur en termes de marketing, de packaging?
Ah oui, justement, tous les produits féminins, dès qu'on veut signifier féminin, dans un linéaire où vous avez des milliers de produits en même temps, du rose, tout de suite, on sait que c'est associé à la femme. Alors justement, ce problème genré pose aujourd'hui problème à toutes ces marques, est-ce qu'elles restent là-dessus ou pas? Mais en tout cas, le rose genré, c'est féminin, c'est un marqueur.
Michel Pastoureau, je vous laisse le mot de la fin, le mot de conclusion à propos de notre émission consacrée au rose.
Oui, ben c'est ce qu'on a dit sur le rose, ça vaut pour toutes les couleurs. L'écart est quand même grand entre le discours et la réalité de la vie quotidienne, en quelque sorte. En matière de vêtements, par exemple, il y a une partie de la population qui aime bien se faire remarquer par le vêtement, et puis il y a une autre partie de la population, beaucoup plus nombreuse, qui préfère ne pas se faire remarquer. Et les fabricants de vêtements le savent très bien, qui mettent en scène deux stratégies de vente. Une très sage, du comme d'habitude, hein, et le commun des mortels aime bien le comme d'habitude, et puis du nouveau, du qui se remarque, du transgressif pour l'autre partie de la population.
Jean-Gabriel Cosse.
Oui, moi je voudrais juste rendre hommage à une rose qui avait 18 ans et dont l'enveloppe corporelle a fané beaucoup trop vite. Sa maman qui nous écoute se reconnaîtra.
Merci beaucoup pour votre message. Un mot de conclusion quand même, Michel Pastoureau, vous l'aimez cette couleur ou pas?
Moi,
oui, titre personnel.
Non, pas vraiment. Elle me laisse un peu indifférent. Moi, j'aime le vert, j'aime le bleu, j'aime le gris.
Les rayures.
Et j'aime les rayures, bien sûr.
J'ai mis une marinière pour vous, ce matin.
Merci, Ali. Merci.
Merci beaucoup, Michel Pastoureau. On peut lire avec beaucoup de profit tous vos beaux livres, richement illustrés, publiés au Seuil. On peut lire également en poche une belle synthèse, le petit livre des couleurs, chez Point, coécrit avec Dominique Simonet. Merci, Jean-Gabriel Cosse, l'étonnant pouvoir des couleurs, et publié chez Flammarion. Merci Hayley Edwards du Jardin. Je recommande Rose de Botticelli à Cristaux et c'est publié au Chêne. Merci Guillaume Todissino. On se retrouve demain évidemment dans Grand Bien Vous Fasse. Plaisir, loisir et curiosité. Une émission à podcaster sur l'appli France Inter.